Bien, donc, si on n'est pas trahi par la technique, je vous propose d'ouvrir cette séance du conseil municipal et de procéder à l'appel. Alors, Pierre présent, Balestra Claude, Balestra Johan, Beaubreuil Bernard, Baudet Hervé, Chabot Mireille, Chazla Laurence, Chazelle Anne-Sophie excusée représentée par Johan Balestra, Coindo Luciam, Compère Béatrice, Coucou Nadège, Crossi Eliane, Dauvergne Frédéric, Desroches Bernadette, Gandois Philippe, Gerbo Alex, Granet Thierry, Ladune Clément, Laurentier Noël, Le Kiev Didier, excusé, représenté par Eliane Crossi, Malagnou Bruno, Murat Laure, Pesquet Aurabel, excusé, représenté par Bernadette Desroches, Pichon Joël, je ne crois pas l'avoir vu, Piel Jean-Sébastien, Pic Clémence, excusé, représenté par Nathalie Tarnot, Razoa Fenozoa Esther, Roi Didier, Séba Julia, Simono Christelle, Tarnot Nathalie, Tricard Stéphanie, Vacheux Christophe. Donc, le quorum est largement atteint. Dans l'ordre du tableau, la secrétaire de séance sera compère Béatrice. À l'ordre du jour de notre conseil municipal, il y a la validation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 4 mars 2021. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Piel ?
Bonjour à toutes et à tous. Nous n'avons rien de plus à corriger sur ce compte-rendu que ce que nous avons déjà fait parvenir et qui a été intégré. Il manque toujours l'enregistrement audio de la dernière réunion sur le site web, mais je ne doute pas que ce soit qu'une question de temps avant de l'y trouver, comme les précédents depuis le début de notre mandat. Cependant, je profite de ce moment pour reparler d'un sujet gênant. Comme nous vous l'avons signalé, nous regrettons les horaires des différentes réunions, que ce soit celle de ce conseil municipal, mais plus encore celle des différentes commissions. Vous noterez plusieurs retards à la réunion d'aujourd'hui, car il est difficile de se libérer aussitôt. Vous ne manquerez pas, également, de noter dans les comptes rendus des différentes commissions les retards ou absences de nombreux membres de notre groupe, comme de la majorité, pour raisons professionnelles. Le règlement intérieur précise que les réunions du conseil municipal sont, en principe, à 18h30. Rien n'est indiqué pour les horaires des commissions, mais il est évident qu'elles devraient se dérouler à des moments où tous les élus, qu'ils travaillent ou non, et la possibilité de participer. Les réunions des commissions se déroulent pour la plupart, ces dernières semaines, en visioconférence. Cela devrait faciliter l'organisation des réunions sans se soucier de l'heure du couvre-feu, mais ce n'est pas le cas. Nous avons vu nombre de réunions se dérouler à 14h ou 16h, et plusieurs élus n'ont pu se libérer de leurs obligations professionnelles. Je suis conscient que les élus peuvent bénéficier d'un crédit d'heure auprès de leur employeur. Cependant, il faut rappeler que ce crédit d'heure est une autorisation d'absence non rémunérée et n'est pas toujours compatible avec les besoins de service. Nous vous redemandons donc, pour faciliter les travaux et les débats, de prendre en compte ces contraintes lors de l'organisation des futures réunions. Merci.
Je vous remercie. Je rappelle que j'applique une décision qui a été prise par la municipalité. Nous sommes d'autre part toujours en urgence sanitaire, d'autant plus aujourd'hui, puisqu'on est sur une troisième vague avec des décrets qui vont sortir vraisemblablement ce soir ou demain à l'issue du vote au Parlement et au Sénat, puisque l'intervention du Premier ministre a lieu actuellement au Sénat. En ce qui concerne les réunions de commission, elles ne peuvent pas se tenir de toute façon en dehors de après 19h en mairie, puisque c'est totalement interdit. Seules les réunions statutaires, on pourrait dire, telles que le conseil municipal, sont autorisées en séance plénière. Après, il appartient à chacun et aux élus et aux adjoints de fixer les heures et horaires de leur commission, en tenant compte aussi, je le rappelle, du travail des personnels administratifs qu'il ne faut pas oublier dans cette notion de réunion. Et puis, comme vous l'avez dit, effectivement, il y a des crédits d'heure. C'est valable pour l'opposition comme pour la majorité d'ailleurs. Et le traitement est le même pour tout le monde. Donc après, chaque adjoint fixe les horaires qu'il souhaite, mais la municipalité a souhaité fixer à 17h30 dans l'immédiat les réunions de conseil municipal, ne pas les faire en visio parce que on a la possibilité encore pour l'instant de les faire en présentiel, ce qui nous paraît beaucoup plus simple à la fois en termes de démocratie, d'expression directe des opinions. Et on voit bien d'ailleurs que lorsque c'est en visio, on n'a pas forcément plus de monde de présent dans les commissions, quels que soient les horaires. Je l'ai fait vérifier encore récemment. Mais j'entends et je prends acte de vos demandes. Oui, monsieur Granet.
Allô, ça marche. C'est génial quand ça marche. Oui, merci monsieur le maire. Moi, je voulais simplement préciser une chose, puisque je fais partie des adjoints qui ont organisé une réunion de commission à 14h, et que j'ai bien noté à ce sujet, d'ailleurs, le mail que j'avais reçu de Johan Balestra, qui a été lu, du reste, pendant la commission, et versé au compte-rendu de la commission, comme il me l'avait demandé. Je voudrais simplement préciser, mais monsieur le maire l'a fait aussi, on pourrait organiser des réunions aussi le samedi matin, ce qui pourrait faciliter la vie de certains élus. Cependant, il n'est pas question pour moi de demander aux agents de la mairie, qui sont indispensables dans nos diverses commissions, de venir travailler en dehors des plages horaires qui leur sont imparties d'une manière générale. Et effectivement, les réunions en soirée sont de fait interdites par le couvre-feu. Donc là-dessus, moi, j'assume parfaitement ce genre de décision. Nous sommes dans une situation qui est tout à fait atypique et pour le moins novatrice. On n'avait jamais vu ça. Eh bien, à la guerre comme à la guerre, et il faut s'organiser comme tel. Maintenant, personne n'est à l'aise pour travailler dans ces conditions-là, mais c'est ainsi, et il faut bien qu'on réunisse quand même nos commissions et que, malgré tout, le travail continue à se faire. Merci.
Je voudrais juste rappeler que la loi, enfin le texte de loi, tant qu'on est en urgence sanitaire, à moins qu'il soit modifié lorsque le décret va sortir, mais je ne pense pas, prévoit que seuls les organes délibérants sont autorisés à se réunir en présentiel et même sont autorisés à se réunir. Donc, à l'extrême limite, mais ça je ne le souhaite absolument pas, l'organe délibérant pourrait, donc municipalité ou conseil municipal, c'est ce qu'on entend par organe délibérant, enfin ce qu'on appelle bureau municipal, pourrait délibérer en se passant des réunions de commission actuellement, ce qu'on ne souhaite pas faire, puisque le but, et je l'ai toujours dit ici, c'est d'associer un maximum de personnes. Mais le texte est très clair là-dessus. Donc après, à charge pour tout un chacun d'organiser ses réunions comme il le peut, pas forcément comme il le souhaite. Mais je prends acte de ce que vous avez dit, donc ça se figurera au procès-verbal. Pardon, monsieur Dauvergne.
Donc je comprends bien vos motivations, monsieur Granet, mais ça nous laisse une marge de manœuvre quand même entre une réunion à 14h et le couvre-feu à 19h. Donc je comprends pas très bien qu'on ne va pas faire revenir les employés donc, soit le samedi matin, soit après même 18h. Mais je veux dire, entre 17h et 18h, je veux dire, on peut encore travailler en commission, même en dehors de la visio, je veux dire. Donc la marge de manœuvre, on peut travailler là-dessus encore. Je pense que c'est possible.
Bien. Après, les réunions de commission qui sont tenues à 14h, ça doit être très exceptionnel néanmoins. Je pense qu'il n'y en a eu qu'une, à ma connaissance, à 14h. Mais bon, on verra. Donc, je vous propose de passer à l'ordre du jour. Notre collègue Hervé Baudet pour la fixation des taux d'imposition pour l'exercice 2021.
Bien. Vu la loi 2019-1479 de finances pour 2020 prévoyant notamment la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales, considérant qu'elle prévoit le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des communes à compter de 2021. Vu le Code général des impôts et notamment les articles 1636B6 et suivants relatifs au vote des taux des taxes locales, considérant que le Conseil municipal est amené à fixer le taux global de la TFPB pour 2021 tenant compte du taux départemental appliqué en 2020, soit 18,96%, considérant que le taux communal de la TFPB voté en 2020 était de 28,53%, et considérant le projet de budget primitif pour 2021, il vous est proposé de conserver les taux appliqués précédemment et donc de fixer les taux d'imposition 2021 comme suit. Donc pour la taxe foncière sur les propriétés bâties qui concerne donc le taux communal à 28,53% et le taux départemental à 18,96%, ce qui nous fait 47,49%, et pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 85,09%.
Je remercie le rapporteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez à maintien des taux par rapport à l'exercice 2020. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Mes chers collègues, le vote du budget est un acte politique par excellence qui décide de la vie de la collectivité pour l'année en cours. À l'image du budget des années précédentes, la réalisation du budget pour 2021 ne fut en rien facile. Les conditions budgétaires qui nous sont imposées par l'État sont complexes, encore plus cette année, au risque de me répéter et de déranger celles et ceux pour qui les finances ne sont pas un souci ou pour qui l'intérêt général est concentré dans quelques petites lignes idéologiques pour en faire un paradigme municipal. Je veux ici rappeler que notre budget communal s'est vu retirer quelques 4 millions d'euros en 7 ans. Cette année encore, la DGF diminue de 55 000 euros. Je veux aussi rappeler que la suppression de la taxe d'habitation n'est assortie d'aucune garantie pérenne, pas plus que nous ne sommes assurés de son dynamisme financier dans les années à venir. Alors bien sûr, je comprends qu'il est facile de tenir tribune en relevant par exemple la réalisation d'un bout de voirie, qui pourtant va grandement faciliter la vie de nombre de nos concitoyens ou s'offusquer du tarif des ordures ménagères en nous donnant des leçons de gestion sans forcément en connaître les tenants et les aboutissants, ni même d'ailleurs en oubliant de dire que l'augmentation est née que d'un euro par habitant. Mais je le redis politiquement, je ne me trompe pas d'adversaire. Et quand je pointe les difficultés financières de notre collectivité, il s'agit bien des conséquences des politiques gouvernementales libérales qui, année après année, ont étouffé les collectivités locales sans aucune vergogne, voire en les accusant d'être trop dépensières. En tous les cas, on ne peut pas avoir en son temps soutenu ces politiques et en oublier aujourd'hui les conséquences, notamment en matière d'environnement. Mais oui, si nous disposions des mêmes moyens qu'il y a 10 ans, nous pourrions faire beaucoup plus en ce domaine. Encore une fois, le montage d'un budget est une tâche qui doit prendre dans son entièreté le service public communal, tant dans son fonctionnement que dans ses investissements. Le personnel, les écoles, la voirie, les bâtiments municipaux, la fiscalité, la culture, le périscolaire, les manifestations, l'ordre public, le développement durable, l'urbanisme, chaque secteur est dépendant des autres, aucun n'a une vie autonome. Un budget est par essence critiquable, bien évidemment, mais pas par le petit bout de la lorgnette et en agitant des brimborions qui laisseraient à penser que tout doit être décidé à l'aune d'une pensée qui en exclut tout autre. C'est pour cela que j'ai la prétention de dire que le budget que nous vous présentons ce soir et qui a été réfléchi par l'équipe municipale est équilibré tant dans ses aspects budgétaires que dans ses aspects politiques. Nous donnons chaque année à notre collectivité les moyens de mettre en œuvre des principes qui tiennent à la solidarité, à la gratuité, à l'entraide, à la culture. Et la redoutable période que nous vivons en ce moment est un défi à la mise en œuvre de ces engagements. Depuis le début de cette crise sanitaire inédite, notre municipalité a été contrainte de s'adapter, tout comme les autres d'ailleurs, perpétuellement, notamment sur le plan budgétaire, afin d'assurer les services indispensables à la population dans ce contexte. État civil, salubrité, propreté, accueil des enfants des personnels prioritaires, adaptation des bâtiments publics. Cela a engendré des dépenses supplémentaires et des pertes de recettes. Je tiens ici à ce moment à remercier l'ensemble du personnel communal pour son engagement et son souci permanent d'assurer une haute qualité de service. Les conditions parfois difficiles en termes d'organisation et d'adaptabilité au gré des évolutions réglementaires pourraient démotiver les équipes. Mais ils nous montrent qu'ils restent pleinement mobilisés pour continuer à effectuer leur mission et accueillir du public dans des conditions particulières. Ils sont essentiels et nous devons les soutenir auprès de l'opinion. Nous pouvons cependant nous demander si le futur de l'action publique n'est pas en train de se fabriquer sous nos yeux, dans de multiples innovations spontanées, critiquées par une crise aussi brutale, provoquée par une crise aussi brutale qu'inattendue. Dès le premier confinement, nous nous sommes efforcés d'innover. Dans ce contexte critique, l'impératif de continuité de service a bousculé le management public d'une manière générale. De nouveaux modes de coopération sont apparus. La relation des institutions publiques aux usagers et aux citoyens s'est recomposée. À nous de poursuivre nos actions afin de garder au cœur de nos préoccupations l'usager et de redonner du sens à l'intérêt général. Quoi qu'il en soit, même si nous rencontrons des obstacles et qu'elle est loin d'être gagnée, la partie mérite d'être jouée et nous nous efforçons de construire un budget responsable, solidaire et ambitieux dans le respect des objectifs fixés lors du débat d'orientation budgétaire et des divers travaux des commissions. Et je peux vous assurer que ce n'est pas simple. Pour vous en convaincre, il suffit d'avoir écouté l'allocution du président de la République hier soir, du Premier ministre ce matin, pour comprendre qu'il est très difficile pour nous, collectivités, de nous adapter, puisque lorsqu'il y a ces interventions, nous attendons toujours les textes et nous essayons certes d'innover, mais nous sommes constamment tenus de nous adapter à des textes qui se modifient régulièrement. Le budget primitif qui vous est proposé se présente de la manière suivante. Notre section de fonctionnement s'équilibre à 17 144 938 euros en dépenses et en recettes. L'ensemble des recettes réelles se monte à 14 761 700 euros. Elles sont relativement stables par rapport à l'encaissé 2020, qui est de 15 2 967 euros. Les recettes de fonctionnement comprennent principalement les produits de la taxe sur le foncier bâti et non bâti et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il est important de souligner le produit important de la taxe sur le foncier bâti attendu en 2021 qui est dû, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, à la réforme de la fiscalité et à la suppression du produit de TH sur les résidences principales pour les communes, c'est-à-dire la perception de la part départementale de taxe de foncier bâti et ce qui porte la taxe de foncier bâti pour 2021 à 47,49% puisqu'on a cumulé le foncier bâti départemental et municipal. Le produit de TFB attendu de 2021 étant supérieur au produit précédent, la commune de Saint-Julien se voit appliquer un coefficient correcteur qui va l'amener à reverser 770 451 euros au niveau national. Et oui, on n'a pas le droit de recevoir plus que ce qu'on a perçu l'année d'avant, au cas où on deviendrait un peu plus riche. Le total des produits fiscaux attendus, on ne sait pas ce que l'État fera de cette somme d'ailleurs, mais bon, ça serait intéressant de se poser la question. Le total des produits fiscaux attendus en 2021, déduction faite de l'effet du coefficient correcteur, s'élève donc à 6 973 200 euros. L'attribution de compensation versée par la communauté de communes, 3 125 000 euros. Les dotations de l'État pour 2 347 000 euros. Je dois dire que c'est un chiffre que nous avons mis, que nous avons essayé de vérifier au maximum. Mais nous attendons toujours les notifications de l'État et nous sommes un petit peu dans l'attente, voire dans l'incertitude à ce niveau-là. Les produits des services pour 827 000 euros au titre des participations et des usagers, aux services municipaux. On espère que les services ne connaîtront pas les fermetures de 2020, sinon évidemment nous aurons des pertes de produits à ce niveau-là. Vous me direz, c'est mal parti. Mais bon, on va espérer que ça s'améliore. Il paraît qu'à partir du 15 mai, il y a une embellie. Les dépenses de fonctionnement 2021 devront être suivies de manière attentive. L'augmentation de nos charges nous oblige à maintenir, comme les années précédentes, un budget serré. L'ensemble des opérations réelles est approché à hauteur de 15 037 050 euros. Elle se décompose comme suit. Les charges de personnel pour un montant de 9 305 000 euros. Les charges à caractère général, pour un montant de 3 475 250 euros. Les charges de gestion courante pour un montant de 1 038 000 euros qui montrent notre engagement et confirment le soutien que nous apportons au mouvement associatif puisque nous avons assuré nos associations qu'il n'y aurait pas de baisse parce que je crois qu'elles font un travail important dans une période compliquée où il n'y a pour les associations pratiquement pas de rentrée d'argent, où il peut y avoir même des pertes de licences, mais où le travail des éducateurs est permanent. Les charges financières à hauteur de 138 000 euros. La section d'investissement 2021 s'équilibre à 5 259 490 euros. À la suite de la clôture du budget 2020, un déficit d'investissement reporté de ce dernier a été inscrit sur le budget principal pour un montant de 20 553 euros. Le financement de la section d'investissement est également assuré par 788 167 euros de subventions qui ont été notifiées et inscrites au titre de l'UCPA, principalement, dont 368 167 euros de reste à réaliser, qui rentrera au fur et à mesure de l'avancement du chantier. 220 000 euros de FCTVA, 66 000 euros d'une vente de maison reçue en legs, 1 983 170 euros d'affectation du résultat 2020, 1 279 663 euros du virement de la section de fonctionnement, et enfin 922 490 euros d'opérations d'ordre, qui concerne essentiellement les amortissements. Ce budget d'investissement est donc d'un niveau raisonnable et compatible avec les capacités d'épargne de la ville. Les principaux projets pour cet exercice concerneront notamment la fin des travaux de l'UCPA pour la confection de 1 200 repas jour pour assurer une alimentation de qualité, qui sera bientôt enrichie par les apports du potager municipal, dont le recrutement d'un chef de culture est prévu pour le deuxième semestre de cette année. La mise à niveau du système incendie et la réhabilitation du parquet du Palais des Sports, des travaux de voirie et les renouvellements de matériel et entretien de bâtiments, dont la toiture du bâtiment maternel de l'ALSH pour le bon fonctionnement des services. Ce sont quelques exemples, mais dans le dossier qui vous a été remis sur le rapport notamment sur les budgets primitifs, vous avez la liste de l'ensemble des travaux qui ont été retenus et validés après que les commissions se soient réunies. Voilà, mes chers collègues, les principaux éléments du budget primitif que je vais vous proposer d'adopter ce soir. Je ne rentre pas dans le détail ligne à ligne, puisque vous avez eu tous les éléments pour pouvoir apprécier le budget qui vous est présenté. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des interventions ? Monsieur Deverne, oui, pardon.
Monsieur le maire, chers collègues, je veux simplement dire dans la droite ligne de ce que nous défendons jusque-là, que ce que nous continuerons, bien sûr, à défendre de manière énergique, dès lors que les projets d'investissement ou vos orientations politiques s'inscriront dans le respect et la protection de l'environnement, dans la solidarité, nous, élus d'Énergie citoyenne, nous les soutiendrons. Non, monsieur le maire, ce n'est pas une posture politique que nous adoptons. Vous avez choisi l'artificialisation des sols, plus de béton. Nous choisissons le respect de la biodiversité, la végétalisation. Ce n'est pas une posture politique de croire à un autre modèle de développement. Ce modèle de développement qui est proposé, il est dépassé. Il est bien plus que dépassé, il est dangereux même. Par ailleurs, monsieur le maire, vous n'avez pas le monopole du débat démocratique. Nous, comme vous, monsieur le maire, nous croyons aussi au débat démocratique. Et jusque-là, dites-moi seulement une idée que nous avons avancée lors des commissions, si elle a été reprise. Je ne crois pas. En l'état, même si nous constatons qu'un budget, ce budget est construit sur des constantes saines, budget bien sûr qui peut être fragilisé par la crise sanitaire, au regard de certains des choix d'investissement ou des orientations politiques qui ne vont pas dans le bon sens, nous voterons contre l'ensemble de ces budgets, annexes et du moins budget principal et annexe, hormis le budget énergie photovoltaïque. Je vous remercie.
Je vous remercie, M. Deverne. Je vais vous donner deux exemples, comme ça, qui me viennent à la tête. Je pourrais en avoir d'autres. Vous nous avez questionné sur le foncier non bâti, notamment pour les exploitations qui étaient en bio, et on a passé l'info qu'on avait jusqu'au mois d'octobre. On a demandé les éléments à la DGFiP pour pouvoir le passer prochainement à une commission des finances. Donc ça, c'est un des premiers exemples qui fait que nous avons entendu ce que vous avez dit. Les éléments ont été donnés à M. Balestra d'ailleurs et seront proposés à une prochaine commission. Et puis je crois que la commission scolaire travaille aussi sur le prix du coût des transports. C'est aussi un deuxième élément. Ça en fait déjà deux. Je pourrais vous en trouver d'autres qui font qu'on travaille aussi, on écoute, et que le monopole de la démocratie, je ne l'ai pas, c'est les commissions qui l'ont, et c'est bien ainsi. Et c'est pour ça que je souhaite qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent être présentes dans les commissions, parce que c'est là que les choses se décident, contrairement à ce qu'on essaye de faire croire en pensant que la municipalité décide de tout. Non, la municipalité ne fait que reprendre les éléments qui lui ont été donnés par les commissions pour valider les projets, mais c'est le travail en commission qui est prépondérant. Vous avez ces deux exemples, je pourrais éventuellement aller en chercher d'autres, mais je vais m'arrêter à ces deux exemples. J'ai bien entendu le sens de votre vote. Je rappelle d'ailleurs que si je pensais que ce que vous proposez en termes de développement durable n'était pas quelque chose d'intéressant, vous n'auriez pas de budget photovoltaïque, puisque c'est la municipalité que je présidais au dernier mandat qui a validé le projet de couverture photovoltaïque sur le Palais des Sports, qui est un projet européen, et si on ne l'avait pas fait, vous n'auriez même pas de budget, donc vous n'auriez pas de budget à approuver pour lequel vous pourriez voter pour ce soir. Donc je suis heureux au moins d'avoir fait quelque chose que vous allez pouvoir approuver ce soir par votre vote. Mais je laisse mes collègues, s'ils souhaitent s'exprimer. Monsieur Granet.
Oui, merci Monsieur le maire. Une remarque, vous dites, Monsieur Deverne, que vous luttez contre l'imperméabilisation des sols. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est évidemment vers cela qu'il faut tendre. On a trop bétonné et on a trop asphalté notre beau pays de France, mais plus généralement l'Europe et même une grande partie du monde. Donc, à cet égard, nous sommes d'accord. Mais après, il y a le concret et le volet pragmatique des choses. Moi, je suis d'accord, pour aller dans votre sens, si vous faites des propositions à l'aménageur qui va créer un lotissement de 48 lots pour intervenir au niveau du règlement du lotissement pour que, par exemple, il n'y ait pas d'imperméabilisation au niveau des trottoirs, il y ait un traitement paysager. Au niveau des services de l'État, c'est ce qui est promu, hein, d'ailleurs. À chaque fois que nous sommes interrogés, c'est ce que nous demandons. Mais à cet égard, la municipalité n'a pas la main sur tout. On est sur un projet privé. Le projet que vous avez attaqué d'imperméabilisation de la voie qui va être faite, prolongée de 200 mètres, c'est un projet d'aménagement du secteur. Donc j'imagine que vous êtes contre la mise à deux fois deux voies de ce qui reste de la 141, puisque de par le fait, on va imperméabiliser quelques hectares de terrain. Donc je crois qu'on ne doit pas opposer développement des territoires et politique volontariste en matière d'écologie et en tout cas de développement durable. On peut tout à fait continuer à aménager, et là ça va être le cas puisqu'on va faire sauter un verrou routier au niveau du rond-point d'Hyperu. On va permettre à des gens d'être désenclavés et de pouvoir plus rapidement sortir de la ville. Et donc, c'est véritablement un projet d'aménagement. Je suis désolé, pour faire passer des camions, il faut encore qu'on fasse des structures lourdes, et ce qu'on appelle des chaussées lourdes, et avec des bandes de roulement en bitume. C'est comme ça. Quand on trouvera un bitume écologiste, on le mettra probablement en place. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à cet égard, les grandes entreprises s'y emploient. Mais force est de constater que, y compris des bitumes qui ont du solaire dans leur structure, le mètre linéaire coûte à peu près 10 fois plus cher que le bitume traditionnel. Donc voilà, on est au début de la réflexion, et là je vous rejoins, il faut qu'on tende vers ça, mais on ne peut pas d'un seul coup, parce qu'on a fait le constat qu'on allait dans le mur, mettre un point final à tout ce qui est en train de se décider. On met le pays sous cloche, donc il faut qu'on fasse un aménagement raisonner et qu'on ait constamment à l'esprit que dans les aménagements futurs, et je vous parle de ce fameux lotissement, je vous engage à vous y intéresser, on s'y intéresse un petit peu, et là c'est un aménageur privé qui fait la chose, donc ce serait intéressant que vous puissiez, pourquoi pas, lui soumettre aussi ce type d'idée. Merci.
Monsieur Balestra.
Merci monsieur le maire, mes chers collègues. Quelques remarques, et notamment là pour réagir au propos de notre collègue Thierry Granet, parce que si je comprends bien, finalement, il faut être pragmatique, c'est-à-dire faire l'inverse de ce en quoi on croit. C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut véritablement défendre l'écologie, il faut une politique écologique. Et le pragmatisme n'a rien à faire dans l'histoire. On parle de l'artificialisation des sols et des routes. Nous nous sommes tous retrouvés pour défendre le train. Le train, c'est une solution à la fois pour le quotidien, mais quand j'entends aussi le transport par camion, développons le ferroutage. On s'est tous battus en gare de Saint-Julien pour conserver notre gare, à la fois pour les usagers, mais également pour le transport de fret. Et là où je suis assez étonné, c'est que si nous faisons tous le constat qu'il y a une urgence écologique et sociale, alors il faut prendre des mesures radicales. Il faut prendre des mesures nettes. On ne peut pas se satisfaire et continuer les politiques d'il y a 10 ans. Les scientifiques nous alertent. Ce n'est pas moi qui le dis. Le GIEC, le Haut Conseil pour le Climat, ils travaillent, nos chercheurs, et ils nous disent qu'il faut agir maintenant. Donc, je trouve que rester enfermé dans des logiques à la fois d'aménagement du territoire ou de l'aménagement urbain, il faut absolument en sortir. Oui. Je peux aussi parler de la théorie du colibri. Voilà, tout compte dans l'affaire. Et si c'est ce qui permet de faire prendre conscience de problèmes plus graves sur des aménagements plus grands, évidemment, ce sera nécessaire et il ne faut rien laisser passer. Et sur l'aménagement routier, à partir du moment où il y aurait des problèmes de sécurité, ça peut être justifié. On n'est pas là pour dire qu'on est sur une artificialisation qui doit être complètement stoppée, mais elle doit être à zéro. C'est-à-dire que dès lors qu'on artificialise, on s'engage à désartificialiser, si je puis me permettre ce néologisme, d'autres parties de notre territoire. Nous aussi, on est bien ancrés dans le réel, et je pense que c'est parce qu'on est ancrés dans le réel qu'on veut mettre un terme à ces politiques qui sont catastrophiques. On parle évidemment de notre avenir, mais aussi de notre quotidien, parce que le changement climatique, il est là, il est devant nous, on le voit, il y a quand même quelque chose de perceptible, y compris à notre échelle. Et ça devrait nous interroger, parce qu'effectivement, il y a eu des grandes phases climatiques. Mais aujourd'hui, c'est la rapidité de ce changement, cet emballement qui est lié à notre activité. Et donc ces 200 mètres, finalement, ils résument très très bien, ils sont symboliques, symptomatiques des politiques qu'il ne faut plus mener. Donc moi, quand j'entends que c'est un projet qui a 10 ans, peut-être parce que c'est un projet qui a 10 ans qu'il ne faut pas le faire. Moi, je ne suis pas là pour accuser. À l'époque, on réfléchissait avec un certain contexte et des données scientifiques qui étaient ce qu'elles étaient. Aujourd'hui, ça a évolué et il faut qu'on en tire des conséquences. Sur ce projet-là, alors on n'est pas là pour sans cesse débattre, on n'est pas d'accord. Voilà. Donc on a le droit de ne pas être d'accord et de se retrouver sur d'autres sujets. C'est comme ça qu'on voit, nous aussi, en tant qu'élus énergie citoyenne, notre mandat. On n'est pas dans l'opposition, on est une minorité qui soutient projet par projet des politiques. Et puis, il faut qu'on en soit conscient, on n'est pas toujours d'accord, mais gouverner, c'est choisir, comme le disait Pierre Mendès France. Donc ici, on est dans un budget qui fait des choix. On se retrouve avec certains d'entre eux et on soutiendra ces projets. Par contre, on est plus nuancé sur certains, voire radicalement opposé sur d'autres. Et donc, on sera une force d'appoint en fonction de la solidité des projets qui nous sont présentés. Et puis, on se veut extrêmement rigoureux, y compris sur la gestion des deniers publics. Ce n'est pas parce qu'on défend une politique écologique et sociale que ce n'est pas ne pas savoir tenir les cordons de la bourse. Donc voilà, moi je souhaiterais simplement qu'on ne se fasse pas de procès sur la capacité ou non à gérer des collectivités, parce qu'en tout cas, dans notre conception des propositions, c'est faire en sorte que l'argent public soit utilisé à bon escient. Et puis sur les politiques de financement des collectivités territoriales, là aussi je l'ai dit à plusieurs reprises lors du mandat précédent, effectivement il y a une difficulté sur la façon dont sont financées aujourd'hui les collectivités avec des pertes d'argent. Et il faut que, collectivement, on réussisse à avoir des réformes qui rendent le système lisible, compréhensible, parce que quand on échange, y compris avec les services, sur l'antériorité ou pourquoi certaines communes ont des dotations de tel montant et que d'autres, quasi semblables, ont des montants différents. Voilà. C'est mettre un principe de justice dans la répartition de ces crédits. Donc, c'était les quelques éléments que je souhaitais vous donner.
Moi, juste un point avant de passer la parole à M. Coindo. J'entends bien tout ce qui est dit, mais je suis surpris qu'on ne constate pas quand même qu'on ne gère plus comme il y a 10 ans. Je vous parlais du potager municipal. On a parlé du photovoltaïque. On aurait pu parler des allées du cimetière qu'on est en train de faire en terre-pierre avec un mélange d'interpolé également entre les tombes. Puisque si vous êtes passé au cimetière, vous avez vu qu'il y a un énorme travail qui est en train de se faire à ce niveau-là. Vous auriez pu regarder en bas de la ville où on fait un mélange terre-pierre avec de l'engazonnement également à côté. Vous pourriez regarder, puisqu'on parlait tout à l'heure du lotissement privé et de cette fameuse voie de 200 mètres encore. Moi, j'entends ce que vous dites, sauf que je ne suis pas certain que les gens qui vont sortir de ce lotissement, qui vont aller au rond-point du pavillon pour redescendre sur Saint-Junien, ça ne soit pas plus polluant que de sortir et de prendre cette route pour aller rejoindre la ville et vice-versa. Ça, c'est une discussion que l'on pourrait avoir pendant longtemps. Et puis, je pourrais également vous dire que sur cette zone-là, nous avons également une problématique, puisque j'ai vu que vous en parliez à un moment donné, d'une petite réserve d'eau qui, je me permets de vous le préciser, est en domaine privé d'ailleurs, mais qui va faire l'objet d'un aménagement. Donc si vous nous aviez posé la question, on aurait pu vous le dire, qui va faire l'objet d'un aménagement à un moment donné, puisqu'elle va être intégrée dans le projet que l'on va faire, qui respectera toutes les conditions qui sont d'une zone humide et qui permettra même d'aller plus loin que ce que ferait un lotisseur privé. Donc c'est bien tout ça pour vous dire qu'on ne gère plus comme on gérait il y a 10 ans, puisqu'il y a 10 ans, on aurait simplement comblé cette zone humide et on aurait fait une maison dessus. On ne gère plus, effectivement, comme il y a 10 ans. Je veux bien entendre la remarque, mais je voudrais juste que vous compreniez qu'on l'a bien compris en face et que ce n'est pas la peine de nous le rappeler à chaque fois, parce qu'on ne fait plus comme il y a 10 ans. Si on avait été il y a 10 ans, on n'aurait pas fait comme ça. Après, moi, j'ai entendu la remarque de Pierre Mendès France. J'ai entendu aussi, à un moment donné, qu'on m'a dit que l'histoire retiendrait ce qu'avait fait François Hollande. François Hollande, il n'a toujours pas fait la réforme de la fiscalité pour les collectivités locales. Je me permets de le rappeler, parce que s'il l'avait fait, on ne perdrait pas 4 millions d'euros aujourd'hui. Donc, il ne faut pas non plus l'oublier. Moi, je veux bien tout entendre. Aujourd'hui, on a des services qui font tout ce qu'ils peuvent pour gérer un budget où ils ont perdu plus de 4 millions d'euros en 7 ans. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de services qui arriveraient à gérer et être en capacité d'offrir à la population des investissements tels que nous les offrons encore aujourd'hui. Et l'UCPA en est un très bel exemple, puisque l'UCPA est un exemple d'investissement où on a de la récupération de fluides et où on doit... Effectivement, où on va travailler avec de l'électricité, certes, mais où on va avoir des économies d'énergie de manière très importante. Donc, j'aimerais bien que dans le discours, on prenne en compte aussi que les élus, ils ont su évoluer. Ils ne gèrent plus comme il y a 10 ans, ils ne gèrent plus comme il y a 20 ans. Et ils sont en capacité, même s'ils ne sont pas estampillés vert, écolo ou autre, ils sont aussi en capacité à faire du développement durable pour la population avec les budgets qu'ils ont. Voilà, après, sur la voirie, on pourrait parler je l'ai dit tout à l'heure, de l'effet carbone des allers-retours quand on va dans un sens ou dans un autre. Ça serait intéressant d'ailleurs que chacun calcule ses coûts carbone pour ses allers-retours à un moment donné autour de cette table. Et puis je crois qu'on pourrait parler après, les uns et les autres, de choses qui vraiment sont en réalité avec les besoins de nos populations. Monsieur Coindeau, vous vouliez la parole.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, oui, je ne vois pas ce que vous avez contre les Verts.
Rien contre les Verts, dès lors qu'ils prennent en compte le fait qu'on a évolué, qu'on n'est pas resté vers Saint-Gétorix, c'est fini.
Mais grâce à nous, tout le monde a évolué, oui, monsieur.
Mais tout à fait, monsieur Coindeau, tout à fait.
L'écologie, les Verts, est pour quelque chose.
Un peu les scientifiques aussi.
Ah, c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup aidés. Prendre conscience. Je vais repartir de du point donc soulevé par M. Granet concernant 200 mètres de voirie. Moi, je comprends tout à fait qu'une jeune équipe qui a pour objet de défendre la nature, la qualité de l'environnement, cherche des symboles forts pour être entendus du grand public. Et je les remercie d'ailleurs de mener des actions pour qu'il y ait une prise de conscience de plus en plus partagée. Par contre, je m'interroge sur les objets qui ont été choisis, et notamment ces 200 mètres de voirie dans cette zone commerciale, c'est-à-dire entre le grand magasin, excusez-moi de le citer, Bricolage, et, excusez-moi de citer aussi, La Poste. Or, mais monsieur le maire a eu l'occasion de le dire, ces 200 mètres vont, me semble-t-il, une fois qu'ils vont être réalisés, soulager finalement l'atmosphère du territoire, parce que lorsque je me rends à La Poste chercher un paquet, je suis amené à faire un demi-tour sur place pour revenir sur mes pas, pour rattraper la voirie qui va me ramener au centre-ville. Et les cul-de-sac, c'est bien connu, sont autant de pertes de qualité de l'air parce que ça oblige nécessairement les voitures à faire demi-tour. Il est toujours souhaitable en aménagement. Et je pourrais vous donner quelques exemples, notamment sur des villages voisins. Il est toujours souhaitable en aménagement d'avoir une continuité de voirie pour que les véhicules à moteur ne soient pas obligés de pétarader sur place pour faire leur demi-tour. Je vous invite à visiter le lotissement qui a été créé depuis une vingtaine d'années sur Saint-Martin-Jussac. Voilà l'erreur à ne pas commettre, c'est-à-dire ne pas faire des lotissements où tout soit en cul-de-sac, ne pas faire des nouveaux territoires commerciaux ou industriels où tout est en cul-de-sac. Effectivement, l'aménagement prévu me semble soustraire cette pollution aux riverains, au voisinage. En ce qui concerne ces 200 mètres, plus précisément, si vous êtes à l'écoute
des riverains que sont les habitants de Fayola, et ils sont nombreux. Lorsqu'ils veulent se rendre chez les kinés, lorsqu'ils veulent se rendre à la poste, lorsqu'ils veulent se rendre au cycle de vélo, enfin, le magasin de vélo, etc., jusqu'à une période récente, ils se faisaient engueuler par le propriétaire lorsqu'ils traversaient par un chemin qui s'était petit à petit institué, mais qui était sur la propriété de privée. Donc ils se faisaient engueuler. Grâce à l'aménagement qui va être réalisé, eh bien, en prenant tout simplement les trottoirs, qui à terme donc, seront un espace public, ils pourront donc se rendre facilement dans cette zone aménagée que sont, où sont installées la poste, les kinés et un certain nombre donc de commerces ou d'artisans dont nous avons le plus besoin. Donc je trouve quand même malheureux que pour pouvoir servir une grande idée qui est celle de l'écologie, de la protection de notre environnement, nous en soyons amenés à utiliser un petit morceau de voirie qui va coûter très cher, mais qui, me semble-t-il, est plutôt, une fois qu'il va être créé, d'un intérêt général. Et, donc, je le répète, pour les habitants de Fayola, et la cité est importante, rappelez-vous, enfin, rappelez-moi le nombre d'habitants de logements qu'il y a sur ce secteur-là, et pour tous les Saint-Juniaux qui ont besoin de se rendre ou à la poste ou au kiné. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a là qu'on fait une polémique pour quelque chose qui est... Bon, il faut qu'il y ait... Il faut que la nouvelle équipe Énergie Citoyenne se cherche des exemples, mais je pense que le sujet qu'elle a pris comme exemple pour faire parler d'elle est mal choisi. C'est tout ce que je voulais vous dire.
Bien, je vous propose de Monsieur Balestra et Monsieur Gerbeau. Non, Monsieur Balestra, je vous en prie, c'était vous en premier.
Simplement pour réagir quand même à ce qui vient d'être dit, ce que j'aimerais le redire, même si on n'est pas d'accord, il faut juste qu'on soit quand même sérieux les uns les autres dans nos arguments. Le symbole, il a plus de 500 000 euros. Et ça, ce n'est pas Énergie Citoyenne qui l'a décidé. C'est hors taxe. Hein.
Non, c'est le prix. Alors, Monsieur Balestra, je me permets de vous interrompre, parce que je vous invite à aller voir sur Internet le prix de la voirie. Oui, donc, vous verrez que c'est le prix de la voirie. Et je vous invite à nous donner le chiffrage de l'entrée de ville de votre programme électoral. Ça m'intéresserait de le connaître pour ramener le prix de votre programme au mètre linéaire de voirie qu'on va faire sur cette voie-là. C'est juste pour constater. Si vous avez chiffré votre programme électoral, vous pouvez me donner le prix de votre voirie d'entrée de ville.
Simplement, moi,
je souhaite
revenir au sujet parce que je vois bien que vous voulez nous écarter de ce qui...
Mais je ne veux pas vous écarter, vous me parlez du prix, je vous demande le prix, moi.
Alors, sur la portion de 200 mètres de route, ce n'est pas nous qui l'inventons, on est sur plus de 500 000 euros hors taxe. Ce n'est pas nous qui l'avons évalué, c'est inscrit dans la délibération du Conseil communautaire.
C'est un estimatif qu'on vous a donné, on vous l'a dit.
Oui,
donc,
c'est une estimation.
Vous ne m'avez toujours pas répondu à ma question.
Je peux juste terminer mon intervention parce que... couper de façon incessante pour faire perdre le fil, c'est aussi une technique.
Non, Monsieur Balestra, je vous ai coupé une fois, c'est tout. Je me permets de vous le faire remarquer, pas de manière incessante.
Donc, je continue. Le symbole a plus de 500 000 euros hors taxe. Ce n'est pas Énergie Citoyenne qui l'a créé. D'accord ? Deuxièmement, à partir du moment où on souhaite relier, on va dire, Monsieur Bricolage à la Poste, on a fait une proposition alternative pour relier ces deux endroits. Une voie verte, des mobilités douces qui permettent de rejoindre de part et d'autre ces structures. Et ça permet d'éviter de faire le contournement dont nous parlait Lucien Coindeau. Il suffit de s'arrêter soit d'un côté, soit de l'autre, et de poursuivre les 200 mètres par une mobilité douce. Et là, du coup, le bilan carbone, il est même meilleur. Donc simplement, voilà, typiquement un sujet sur lequel, effectivement, on n'est pas d'accord. Voilà. Mais on n'est pas obligé non plus de faire preuve d'arguments qui sont quand même assez fallacieux.
Alors moi, je ne prends pas d'arguments fallacieux. Simplement, avant de donner la parole à M. Gerbeau, je constate que si on s'arrête d'un côté ou de l'autre, il faut faire un parking. Voilà, je dis ça simplement comme ça. Et que la trottinette, ça ne résout pas le problème des gens qui vont chez le kiné ou ailleurs avec une voie verte. Même si je suis pour qu'on fasse des voies vertes ou on peut faire des voies vertes. Je rappelle que les 500 000 euros... c'est une estimation pour faire la demande de subvention. Donc, je ne voudrais pas qu'on prenne cela comme argent comptant, je le rappelle, parce que ça serait quand même un petit détournement de la réalité des choses. Quand on dit que c'est une estimation, et qu'on verra la réalité au moment où les entreprises seront consultées. Et que je vous invite à aller voir le prix du mètre linéaire de voirie pour faire une voirie, et vous pouvez aller sur Internet, sur tous les sites professionnels et tout, et vous verrez qu'on est en dessous pour 200 mètres de voirie, où on intègre des espaces qui permettront de faire passer aussi de la piste cyclable ou des vélos, de manière sécurisée. Sur cet espace-là, je constate aussi que vous n'avez pas répondu à ma première question, mais ce n'est pas grave. Monsieur Gerbeau.
Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Justement, j'avais deux interrogations, dont celle de monsieur le maire concernant votre projet qui était dans votre programme électoral. Je m'interrogeais aussi sur le montant que vous auriez pu aligner en face et sur combien d'années ou même, j'irai plus loin, sur combien de mandatures vous auriez pu étaler les travaux pour aller jusqu'au bout et ne pas fragiliser les finances de la municipalité et toutes les richesses que nous pouvons avoir à Saint-Junien. Je pense totalement à la culture, à tout ce qui est social, à des points de gratuité auxquels la majorité est ici très attachée. C'était ma première interrogation. Ma deuxième interrogation porte sur le sujet de ces fameux 200 mètres qui, finalement, nous auront occupé pas mal de temps. Il me semble que deux personnes de votre groupe étaient présentes lors de la visite à vélo du Tour de Saint-Junien sur les fameux pistes cyclables. Et nous avons fait un point sur les différents projets qui allaient être réalisés. Nous avons fait un point, nous nous sommes arrêtés à l'emplacement où partiront ces fameux 200 mètres. Nous avons expliqué le projet, nous avons expliqué qu'il y aurait à terme aussi des modes de mobilité douce comme une piste cyclable. Ces deux personnes ne se sont pas forcément prononcées contre, mais elles étaient plutôt enjouées et étaient quand même assez satisfaites qu'une proposition soit faite à cet endroit-là pour rejoindre le Haut de Saint-Junien, dont je m'étonne toujours sur votre positionnement. Ça peut poser quelques questions. Est-ce que ce n'est pas qu'une posture politique? Et là, ce serait quand même très dommage.
Alors, monsieur Ladune, et on va clôturer sur ce sujet-là.
Oui, excusez-moi, merci. Très rapidement, je me disais juste que là, on est en train de faire porter le combat idéologique de l'écologie sur un sujet où, en fait, on en est à accuser, finalement, enfin, à débattre de quelque chose qui concerne l'aménagement public, un aménagement public qui permettra d'accéder à des services publics, qui permettra de desservir la cité Fayola, un quartier populaire, etc. Et finalement, la question du combat idéologique contre l'artificialisation, c'est quand même une question qui porte plus sur le secteur privé. Moi, je suis plus inquiet de voir se multiplier parfois des zones commerciales sur lesquelles la municipalité n'a pas de prise et dont parfois on pourrait discuter de l'utilité sociale plus que de voir cette voirie se mettre en place parce que la circulation et la liberté de circulation, bien qu'en ce moment ce soit un peu compliqué, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et c'est vrai que les voies vertes, c'est très bien, mais ça ne peut pas être utilisé tout le temps, ça ne peut pas fonctionner pour tout, et on a besoin aussi de continuer à aménager. Quant à le deuxième point, c'est plus une... la question de l'investissement public, c'est quand même une question importante, et c'est un peu dommage d'être en train de se dire « Ah bah oui, mais il faut qu'on soit toujours dans l'austérité. » Le développement du secteur public, le développement du bien-vivre, ça coûte forcément des sous. C'est pas du gaspillage, c'est de l'investissement. Et malheureusement, comme monsieur le maire l'a bien dit tout à l'heure, la question de l'investissement public est un sacré problème où on va laisser, où on laisse finalement nos infrastructures, si on continue à baisser les dotations ou à ne pas les remonter tout simplement, on va laisser nos infrastructures vieillir et devenir inadaptées pour la population. On a besoin aussi d'investir, d'adapter notre ville à la question écologique, bien sûr, mais aussi à la question des déplacements. Et le combat sur la question écologique, il y a des points sur lesquels il est mené, et je pense que c'est un combat contre enfin, je vais le dire simplement, je ne pense pas que ce soit la municipalité de Saint-Junien qui, même en construisant une route un jour, est responsable du changement climatique. C'est plus un combat qu'on a à mener contre le fonctionnement du capitalisme qui détruit effectivement et où on voit avec des constructions privées inutiles de vrais problèmes d'artificialisation. L'artificialisation, quand elle sert à quelque chose, elle est quand même nécessaire. On ne peut pas tous, on ne peut pas fonctionner sans. Merci.
Je vous remercie, Monsieur Vacheux, et on passe au vote.
Oui, moi je voudrais revenir sur une petite phrase, Johan, que tu as utilisée.
Un peu plus près du micro pour l'enregistrement, parce que
je,
sinon.
Je voudrais revenir sur une petite phrase que tu as utilisée, Johan, et auquel je suis sensible. Tu as parlé à présent de politique écologique et sociale et solidaire. Voilà qui, dans ta bouche, est nouveau. Mais je m'en félicite. Je pense qu'elle est l'occasion, non pas de penser au hasard, mais qu'elle est sans doute le fruit de rencontres politiques à venir, déjà exercées et peut-être à venir. Je suis satisfait de ce discours, sincèrement. Je suis satisfait de ce discours. Il n'en demeure pas moins, et je le dis de façon constructive, enfin, je l'espère que tu l'entendras comme tel, que c'est compliqué, en fait, d'exercer les deux. Je crois que c'est un exercice délicat, difficile, d'équilibriste, que de faire coexister la question des politiques écologiques et des politiques économiques et solidaires. C'est vraiment compliqué, et social également. À quel moment un aménagement, finalement, public, pour reprendre ce que disait Clément, est empiétant sur la question écologique, mais finalement parfois développant sur la question sociale. À l'inverse, développant sur la question écologique et parfois empiétant sur la question sociale. Moi, très honnêtement, ma posture ici, pendant les années qui me restent, n'est pas de m'engager dans ce combat-là ridicule, sinon d'une cour de récréation, mais en tout cas qui, à mon sens, n'élève pas notre débat et n'est pas à la hauteur de ces enjeux. Je crois que nous devrions sincèrement nous proposer une vraie réflexion sur le pari difficile de faire coexister ces deux réalités et sur un avenir de comment parvenir à le faire coexister, c'est-à-dire dans nos choix, nos décisions, nos réflexions. À un moment donné, d'entamer une réflexion collective et auquel vous devez, vous, et être invité, pour finalement tracer les contours d'une politique qui sera en tout cas le plus bienveillante sur la question écologique, mais également la plus bienveillante sur la question sociale et solidaire. C'est un exercice délicat, mais je crois que ces questions méritent cette réflexion et méritent cet engagement-là. Serons-nous au rendez-vous ? Les années qui sont à venir le diront, mais je ne peux que tendre vers cette orientation-là.
Bien, je vous remercie. Je vous propose donc de passer au vote sur ce budget. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes contre, 6, donc adopté à la majorité. Notre collègue Stéphanie Tricard concernant le budget du camping.
Merci. Le budget annexe du camping s'équilibre à 72 494 euros en fonctionnement et à 22 395 euros en investissement. Concernant les dépenses de la section de fonctionnement, les charges à caractère général, assurance, énergie, eau, frais de télécommunication sont estimés à 39 134 euros. Les charges de personnel avoisinent les 19 500 euros. Les produits des services sont évalués à 42 972 euros et l'excédent antérieur reporté est de 20 028 euros. Pour la section d'investissement, 3 189 euros sont prévus pour les dépenses d'équipement, auxquelles s'ajoutent 8 620 euros pour l'amortissement des subventions. Opération d'ordre, et 10 586 euros de déficit antérieur reporté. Les recettes d'investissement correspondent à 10 585 euros d'excédents reportés et à 11 810 euros de dotation aux amortissements. Voilà, chers collègues, les principaux éléments du budget primitif que je vous propose d'adopter ce soir.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, 6, adopté à la majorité. Notre collègue Didier Roy concernant les lotissements communaux.
Le budget primitif 2021 du lotissement du Boiseau-Bœuf est équilibré en section de fonctionnement à hauteur de 168 813 euros. La section d'investissement est équilibrée à hauteur de 101 313 euros. Les écritures réelles correspondent pour les dépenses à 67 500 euros pour la réalisation de travaux d'aménagement. Pour les recettes, sont prévus des produits de cession des lots de terrain à aménager à hauteur de 88 350 euros. La totalité des inscriptions restantes correspond à des écritures d'ordre budgétaire qui ne se traduisent pas par des encaissements ou décaissements d'argent relatives à la variation du stock des terrains. Voilà, mes chers collègues, les principaux éléments du budget primitif que je vous propose d'adopter ce soir.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions ? Des votes contre ? 6. Adopté à la majorité. Il faudra que je regarde quand même si, quand on a créé ce lotissement, il n'y avait pas un vote unanime du conseil municipal. Je dis ça comme ça, mais... On poursuit avec notre collègue Béatrice Compère, budget primitif des pompes funèbres.
Merci, monsieur le maire. Avec une section d'exploitation qui s'équilibre à 19 003 euros, seules les dépenses liées au personnel sont inscrites pour un montant de 15 000 euros, ainsi que le reversement de l'excédent au budget principal. En recette, les produits des services d'un montant de 8 000 euros viennent s'ajouter à l'excédent antérieur, reporté de 11 003 euros. Aucune opération n'est inscrite en section d'investissement. Voilà, chers collègues, les principaux éléments du budget primitif que je vous propose d'adopter ce soir.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions ? Des votes contre ? Adopté à la majorité. Notre collègue Claude Balestra concernant le budget énergie photovoltaïque.
Alors, avec une section d'exploitation qui s'équilibre à 32 597 euros, seules les recettes liées aux ventes d'énergie sont inscrites pour un montant de 4 000 euros et 28 597 euros de résultats reportés viennent abonder les recettes. Aucune opération n'est inscrite en section d'investissement. Voilà, chers collègues, les principaux éléments du budget primitif que je vous propose d'adopter ce soir.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Monsieur Balestra, vous serez félicité, puisque vous êtes le seul à avoir réussi ce soir à faire adopter un budget à l'unanimité, puisque même celui des pompes funèbres, on n'y est pas arrivé. Notre collègue Laurent Chazla concernant la validation du rapport de la commission locale des charges transférées, la CLET.
Vu la loi numéro 2215-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment son article 35, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article 5211-5, vu le Code général des impôts et notamment l'article 1609-6, vu la délibération du Conseil communautaire numéro 2020-252 du 18 décembre 2020, transférera la compétence des chemins de randonnée aux communes, vu la délibération du Conseil municipal numéro 2021-002 du 4 février 2021 approuvant ce transfert de compétences, la mission de la CLECT est double. Elle est chargée de l'évaluation des charges transférées, collecte et validation des données, calcul du coût net des transferts, etc. De la rédaction d'un rapport qui sera soumis pour validation aux communes et pour information au Conseil communautaire qui lui notifiera le montant des attributions de compensation découlant des travaux de la CLECT. Le CGI, précise que la CLECT élabore son rapport d'évaluation en tenant compte des charges telles qu'elles existaient à la date du transfert. La commission dispose ensuite de 9 mois pour réaliser son travail d'évaluation. Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées d'après leur coût réel tel qu'il est constaté lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou dans les comptes administratifs des exercices avant transfert. La période de référence est déterminée par la CLECT. C'est ainsi que la CLECT de la communauté de communes Porte-Océane du Limousin s'est réunie le 29 mars dernier afin de proposer la suppression des charges liées à l'entretien des chemins de randonnée compétences transférées aux communes au 1er janvier 2021.
Je remercie le rapporteur. Donc vous avez les tableaux qui ont été élaborés, qui vous ont été transmis. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Balestra.
Oui, monsieur le maire, juste un détail. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est le président de cette commission ? Parce que ce n'est pas mentionné dans le document, juste à titre d'information. Ça devait être
Philippe Lacroix ? Philippe Lacroix. C'est le président de la commission des finances. Bien, d'autres questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Christophe Vacheux concernant les modalités de versement de la subvention au CCAS exercice 2021.
La commune de Saint-Junien octroie une subvention CCAS d'un montant de 79 250 euros au titre de l'exercice 2021. Un montant d'ailleurs, je précise, inférieur à celui de l'année dernière. Il appartient au conseil municipal d'en fixer les modalités de versement, date et montant des échéances. Le maire vous propose donc d'effectuer l'ordonnancement de la subvention de la manière suivante. Premier acompte, 26 416 euros en avril 2021. Deuxième acompte, 26 417 euros. Nette augmentation en juillet 2021. Et enfin, le solde, 26 417 euros en décembre 2021.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions ? Des votes contre ? Adoptés à l'unanimité. Notre collègue Philippe Gandois concernant la validation de la convention avec la SCJ Omnisport.
Considérant la notification de la trésorerie de Saint-Junien informant de l'insuffisance de pièces justificatives lors de la demande de paiement de la répartition de la subvention de la SCJ Omnisport aux associations dédiées, considérant l'article 84 de la loi numéro 2009-526 du 12 mai relative à la simplification et à la clarification du droit et d'allègement des procédures, il vous est demandé de délibérer sur la convention entre la commune et la SCJ Omnisport, précisant les modalités de reversement d'une partie de la subvention communale aux associations membres de la SCJ Omnisport.
Remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Esther Azoa-Fenozoa, concernant la cession de la commune à la SCI Ospinard.
La SCI Ospinard Gestion, représentée par M. Ospinard Mehmet, souhaite acquérir la parcelle communale cadastrée section DZ numéro 80. Cette parcelle d'une superficie de 959 mètres carrés est évaluée par France Domaine à 9 000 euros. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter de céder à la SCI Ospinard Gestion la parcelle DZ numéro 80 au prix de 9 000 euros que je vous demande de délibérer et que cette délibération annule et remplace la délibération numéro 2013-341 du 16 décembre 2013.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Balestra.
Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, juste pour savoir du coup quelle est la différence entre cette délibération et celle de 2013.
Mais ce n'est pas le même acheteur. Et on a vendu plus cher, puisqu'on redemande une estimation des domaines, puisque l'estimation des domaines est valable 2 ans. Et donc on redemande une estimation des domaines. Le précédent n'ayant pas conclu la vente, on a un nouvel acheteur. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité ? Notre collègue Julia Seba, concernant la cession de la commune à M. Jérôme Bouny.
Par délibération en date du 4 mars 2021, il a été décidé de déclasser une partie du domaine public situé rue de Nontron au droit de la parcelle cadastrée section AH numéro 245, propriété de la SCI immobilière Nontron, de la parcelle AH numéro 137, propriété de M. Bouny Jérôme, et de la parcelle AH numéro 138, propriété de M. Pelpel Laurent. Vu la demande de M. Bouny Jérôme sollicitant l'acquisition d'une partie du domaine public situé rue de Nontron au droit de sa propriété, à la suite des opérations d'arpentage réalisées par le cabinet Vincent, géomètre expert à Saint-Junien, la délimitation de la parcelle nouvellement créée est la suivante. Parcelle AH numéro 247 d'une superficie de 21 mètres carrés devenant la propriété de M. Bouny Jérôme. il est proposé au conseil municipal de céder la parcelle cadastrée section AH numéro 247 à M. Bouni Jérôme au prix de 70 euros le mètre carré, conformément à l'avis en date du 24 mars 2021 établi par le pôle d'évaluation domaniale, soit au prix total de 1470 euros TTC. La moitié des frais de géomètre sont à la charge de M. Bouni Jérôme, soit la somme de 482,70 euros TTC. Les frais d'acte notarié sont également à la charge de l'acquéreur. Il vous est demandé après délibération d'approuver la cession de la parcelle AH numéro 247 à M. Bouni Jérôme au prix de 1470 euros, dit que les frais de bornage d'un montant de 482,70 euros sont à la charge de M. Bouni Jérôme, désigne l'étude de maître Coulot Julien à Saint-Junien et dit que les frais du notaire seront à la charge de M. Bouni Jérôme, dit que les crédits éventuels nécessaires sont prévus au budget primitif de l'exercice en cours et que les recettes éventuelles sont enregistrées au budget de la commune et autorise le maire à signer tous les documents nécessaires.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre? Adopté à l'unanimité. On poursuit avec M. Beaubré concernant la cession à la SCI immobilière Nontron, rue de Nontron, donc c'est la parcelle d'à côté.
Merci, monsieur le maire. Donc, je vous passe la première, le premier paragraphe, puisque c'est le même que la délibération précédente. Et vu la demande de la SCI immobilière Nontron, représentée par monsieur Rougier et Jean-Louis, sollicitant l'acquisition d'une partie du domaine public situé rue de Nontron, au droit de sa propriété, à la suite des propriétés des opérations d'arpentage réalisées par le cabinet Vincent, géomètre expert à Saint-Junien, la délimitation de la parcelle nouvellement créée est la suivante. Parcelle AH numéro 246, d'une superficie de 4 mètres carrés, devenant la propriété de la SCI immobilière Nontron. Il vous est donc proposé de céder la parcelle cadastrée section AH numéro 246 à la SCI immobilière Nontron au prix de 70 euros le mètre carré, conformément à l'avis en date du 24 mars 2021, établi par le pôle d'évaluation domaniale, soit au prix total de 280 euros TTC. La moitié des frais de géomètre sont à la charge de la SCI immobilière Nontron, soit la somme de 482,70 euros TTC. Les frais d'acte notarié sont également à la charge de l'acquéreur. Il vous est donc demandé d'approuver cette délibération.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Alex Gerbeau concernant la création d'un potager en régie municipale et demande de subvention au département de la Haute-Vienne.
Merci monsieur le maire, mes chers collègues. Tout d'abord, je voudrais faire un petit arrêt et montrer toute ma satisfaction à présenter cette délibération devant vous ce soir. C'est un projet important pour la ville de Saint-Junien et peut-être à terme un petit peu au-delà. C'est important pour nos écoliers qui vont avoir de la nourriture d'une qualité encore supérieure. On pourra aussi difficilement faire plus local. On aura la main sur que ce soit la confection des produits, enfin du début à la fin de la chaîne. Et je trouve que c'est un projet qu'il est très plaisant de porter, même s'il est lourd. Nous en sommes qu'au début, il va être long. Mais je pense que c'est quelque chose qui est là, qui va dans le bon sens, qui mêle le social et l'écologie. Ça, je rejoins totalement mes collègues. Et je vais maintenant vous présenter cette délibération. Donc, concernant la création d'un potager en régie communale sur la demande de subvention au département, au titre du contrat départemental de développement intercommunal. Donc, concernant les lignes directrices du projet, dans le cadre de son programme électoral 2020, la municipalité de la ville de Saint-Junien s'est engagée en faveur du développement d'un potager municipal. Le travail de réflexion mené a permis de jeter les bases de concrétisation de cette opération en ayant au préalable élargi la connaissance et les objectifs du dossier et mené la concertation nécessaire. Par cette action, la collectivité souhaite affirmer son engagement en faveur de la prise en compte de la qualité des produits pour la création des repas réalisés par son restaurant municipal. Le développement de ce qui est qualifié de circuit court est aussi un aspect prioritaire du projet. L'intégration d'une production à le label bio est l'objectif retenu, doublé de la volonté de satisfaire à terme 80% des besoins du restaurant municipal. Concernant les principes généraux de développement, donc l'approche économique du projet, en référence au coût actuel de la fourniture de légumes et fruits concernés, et certains paramètres, comme repères, mais ne pourra pas être un élément de comparaison rédhibitoire, excusez-moi, tant le développement vers d'autres sujets, ce projet se veut porteur. L'exploitation du site devra, dans sa gestion, être réalisée en totalité par la régie municipale dans le cadre des services mutualisés par la communauté de communes Porte-Océane du Limousin. Les travaux de terrain seront également effectués avec un maximum de moyens internes, qu'ils soient humains ou bien matériels, avec l'appui de structures d'insertion. L'opération doit également prendre en compte l'aspect pédagogique, éducatif et touristique comme support pour les organismes intéressés. Ce dossier doit bien entendu s'inscrire comme un axe de développement des thèmes mis en avant dans l'agenda 21 et le PCAET porté par la Pôle. Le site pressenti, serait celui de l'île de Chaillac sur Vienne, la plus grande île sur le tracé du cours d'eau de la Vienne. Île dont la propriété est celle de la communauté de communes Porte-Océane du Limousin avec une surface totale d'environ 40 hectares, dont une trentaine cultivables. Des discussions sont menées avec la communauté de communes Porte-Océane du Limousin afin d'envisager une location des terres, voire de bâtiments qui s'y rattachent pour satisfaire à ce projet. Il n'est cependant pas exclu que d'autres terres municipales soient utilisées afin de compléter la nécessité de foncier supplémentaire dans la mesure où il répond aux besoins et exigences qui s'y rattachent. Le développement de cette action passera par le recrutement d'un chef de culture qui conduira l'exploitation. Il sera épaulé par le service des espaces verts pour les besoins personnels, mais aussi par des associations d'insertion lors des périodes d'activité plus intenses, comme les semis, les récoltes, l'entretien des cultures. L'objectif de répondre à terme à 80% des besoins du restaurant municipal, tel qu'évoqué dans les lignes directrices du projet, correspond à une production totale d'environ 20 tonnes, dont 13 de pommes de terre. C'est très important, hein. Des besoins matériels sont également à prévoir. Cela concerne pour les moyens de traction l'achat d'un tracteur pour les passages en serre, pour la production l'acquisition de serres et tunnels et moyens d'irrigation, pour le travail au sol la charrue et le vibroculteur, pour le matériel de plantation et semis puis récolte, les moyens de préparation et stockage, le véhicule de transport et déplacement, et le petit matériel et outillage divers. Ensuite, vous avez de présenter l'estimation financière des investissements, donc en estimation à 126 000 euros hors taxes. Je vous laisse prendre connaissance des différents items. Ensuite, le plan de financement prévisionnel avec un total de financement public à 31 500 euros avec qui correspond à 25% du montant global, avec un autofinancement à 94 500 euros pour un coût total à 126 000 euros. Donc il est proposé de solliciter le conseil départemental dans le cadre des contrats départementaux de développement intercommunal.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Madame Pic et Monsieur Granier.
Monsieur le maire, mes chers collègues, nous nous réjouissons de voir que le projet de potager municipal avance malgré les difficultés liées à la situation actuelle. Nous rappelons que nous défendons une alimentation saine et produite localement. C'est d'ailleurs la trajectoire dans laquelle s'investissent déjà les équipes de la cantine scolaire. Et la création d'un potager municipal est une étape fondamentale pour permettre à la collectivité de fournir des produits bio et de qualité au restaurant municipal. Nous souhaitons savoir s'il y a eu d'autres avancées par rapport à ce qui avait été présenté en commission travaux, bâtiments, aménagement durable. Le début de la mise en production est-il toujours prévu pour 2022, date qui avait été évoquée lors de la commission? De même, vous indiquez une volonté de satisfaire à terme 80% des besoins du restaurant municipal. Nous nous félicitons de cet objectif. Par contre, quel est le calendrier prévu pour l'atteindre? Nous espérons aussi que les 20% des besoins restants seront couverts par des produits bio et autant que possible produits localement. Enfin, si c'est bien l'île de Chaillac qui est retenue pour ce projet, où en sont les discussions menées avec la communauté de communes à ce sujet? Et de plus, comme il n'est pas à ce jour prévu que des travaux soient faits sur les bâtiments de l'île, y aura-t-il des investissements faits ultérieurement par la Pôle sur ces bâtiments qui pourraient être utilisés donc pour, dans le cadre des activités du potager? Et si oui, à quelle échéance approximative cela sera-t-il fait?
Alors, vous avez pu voir que vous avez une partie des réponses qui sont dans le dossier, puisque le site pressenti serait celui de l'île de Chaillac, que les discussions sont en cours à la communauté de communes, mais si vous avez vu les comptes rendus de bureau de la communauté de communes, il a été validé que ce site était bien prédisposé pour, pour cette activité de potager communal dans un premier temps, puis qui a vocation à devenir intercommunal par la suite au gré des demandes des communes. Les investissements, mais je vous ai dit tout à l'heure dans mon intervention qu'il y aurait le recrutement d'un chef de culture. Il est évident que nous n'allons pas commencer à réfléchir aux investissements tant que le chef de culture n'est pas arrivé. La mise en production est prévue aux dates qui vous ont été données en commission pour l'instant. Il n'y a pas de changement là-dessus. Pour atteindre les 80%, moi je souhaite que l'on attende l'arrivée du chef de culture qui devra programmer cela, puisque si on commence à faire les prévisions avant que le chef de culture soit là, c'est pas la peine d'avoir un chef de culture. Il faut qu'on se mette bien d'accord. Le chef de culture aura cet objectif dans sa feuille de route. Ça ne va pas se faire en deux jours, effectivement, mais il a cet objectif dans sa feuille de route. Le chef de culture sera recruté sur un statut de contractuel sur deux ans pour qu'on puisse examiner effectivement quelle est l'évolution de la situation, puisque une mise en culture, ça ne se regarde pas sur une seule année, mais ça se regarde sur plusieurs exercices. Après, les travaux qui seront nécessaires, eh bien, ils seront faits, mais il faut d'abord qu'on détermine avec le chef de culture les besoins qui seront nécessaires. Enfin, sur l'autre partie, je dois vous dire que si on étend progressivement, d'abord, on ne peut pas aller que vers du bio, parce qu'on est tenu de faire des appels d'offres, donc on a aussi des conditions, c'est ce qu'on a dit dans les appels d'offres, on essaie d'y aller au maximum, mais il faut aussi respecter la réglementation des appels d'offres. Et puis je rappelle que pour l'instant, on a, alors peut-être en dehors des pommes de terre d'ailleurs, mais on a très peu de maraîchers qui sont en capacité à nous fournir sur la quantité que l'on achète, parce que si on achète, si un jour on fait des salades ou des carottes ou j'en sais rien, actuellement on met en difficulté ces mêmes maraîchers parce que vu la quantité qu'on achète, sur les achats d'une semaine, ils n'ont plus de quoi fournir à leur client habituel. Donc c'est aussi une question qu'il faudra que les maraîchers se posent pour les 20% qui restent à acheter, de voir comment ils sont en capacité éventuellement à répondre aux appels d'offres qui seront faits. Mais on essaiera d'y tendre au maximum. C'est ce que l'on fait actuellement. Je dois vous dire qu'il y a des fois, on croise un peu les doigts pour que des locaux, ou tout au moins pas très loin de chez nous, nous répondent, parce que un appel d'offres, c'est un appel d'offres, il y a une réglementation à respecter, et la réglementation, elle s'applique pour tout le monde. Donc ensuite, c'est en fonction de la réponse des uns et des autres, mais c'est une opportunité qu'on offre aussi aux producteurs bio du secteur d'être en capacité demain à nous fournir des produits. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, j'en ai peut-être oublié.
Pour ce qui est des discussions avec la Pôle, la convention alors sera signée prochainement ou pas?
Ah ben, la convention elle sera signée en temps voulu. Le problème, si vous voulez, il n'y a pas de souci, puisque pour l'instant, de toute façon, on a des terres disponibles au niveau de la Pôle. Donc là, on n'a pas de problème particulier à ce niveau-là. Dès lors que le bureau communautaire a validé ce projet-là, le reste suivra en son temps.
D'accord. Ben, c'était tout.
Oui, pardon, monsieur Granet, je vous avais oublié.
Oui, merci, monsieur le maire. Non, très rapidement, à l'instar de notre collègue Alex Gerbeau, je me félicite absolument de la présentation de cette délibération ce soir, que bien naturellement, je vous engage à voter sans réserve. Je vous rappelle que c'est un des points majeurs de la liste majoritaire, que la liste majoritaire avait présenté aux électeurs en son temps. Donc, je suis ravi que ça intervienne très rapidement, malgré la période difficile que nous venons, que nous vivons depuis un an maintenant. Et donc, merci en tout cas à ceux qui ont œuvré pour qu'on y arrive. Et puis, comme il nous a été rappelé en début de séance que si gouverner, c'est choisir, comme disait ce cher Mendès France, que j'admire et que j'adore absolument, cette délibération-là prouve qu'avec une véritable volonté politique, on peut aller à l'idéal et comprendre le réel, comme disait un autre grand qui n'est autre que Jean Jaurès. Merci.
Bien, je vous remercie. Moi, je vais être très terre à terre. Est-ce qu'il y a des... Oui, alors, Monsieur Balestra et Madame Razoff-Nozoa. Oui, Monsieur Balestra.
Oui, simplement pour vous dire qu'effectivement, on est tous d'accord. Et c'était un point de convergence durant la campagne. Et ce sera un point de convergence durant ce mandat. Donc, nous soutenons évidemment ce projet qui est extrêmement intéressant, novateur, et qui, en plus, se passe en lien avec la communauté de communes, qui était aussi une des autres éventuelles questions qu'on aurait pu vous poser. Et vous y avez répondu avant même qu'on vous la pose. Donc, c'est parfait.
Ben, je suis très heureux que vous soyez d'accord avec un projet qu'on a présenté. Ça répond un peu à la question. Je regrette simplement qu'on ait, que vous n'ayez pas voté les crédits pour le réaliser, mais on le fera quand même. Mais bon. Donc, Madame Razoff-Nozoa.
Oui, je ne reviens pas à tout ce qui a été dit, mais je regardais parmi les personnes qui vont intervenir, enfin les acteurs, il y a chef de culture, il y a service des espaces verts, association d'insertion. Je me questionnais pourquoi nous, on ne demande pas sous forme des bénévolats, des personnes âgées, mais qui ont dans la capacité physique et mentale adaptée, parce que je pense que ce sont nos aînés qui connaissent parfaitement, qui ont des connaissances inouïes sur la culture, qui peuvent nous apporter, non seulement aussi, on peut les valoriser culturellement, ils ont des expériences, et que moi, je pense que c'est un atout pour nous. Après, la faisabilité, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura, mais pourquoi ne pas... les inclure dans ce projet, parce que en travaillant dans mon milieu où je côtoie presque tous les jours les personnes âgées, ils savent à tel moment on peut semer les haricots verts. Enfin, j'en sais rien, j'ai dit ça, je ne connais pas trop grand-chose, mais je pense que ce sera un atout pour notre commune de ne pas ignorer nos aînés parce qu'ils ont des connaissances sur ce point-là.
Quand on parle de projet à vocation sociale, c'est à la fois l'image que l'on veut donner d'apporter d'une part à nos enfants une nourriture de qualité, c'est aussi aller vers de l'intégration, de l'inclusion sociale, et ça on peut le faire par le biais des associations d'insertion qu'on va associer à ce projet-là, mais l'insertion sociale ou l'inclusion sociale ou l'éventail social n'exclut pas aussi le fait, puisqu'on le fait déjà pour nos jardins ouvriers, le fait de faire travailler, ou tout au moins de faire réfléchir, ou de mettre à contribution en termes de conseils des personnes qui ont une expérience par le passé, ou qui ont eu une expérience par le passé dans ce domaine-là. Donc on le fait déjà, et notre service social le fait pour les jardins ouvriers, avec des retraités qui encadrent, on va dire, en quelque part, les personnes qui sont sur ces jardins-là. On peut aussi, et on évoluera au fil du temps, une fois que notre chef de culture sera arrivé, pour réfléchir à toutes ces pistes d'évolution en matière d'intégration des personnes, à la fois en insertion sociale, mais aussi présentes et retraitées sur notre territoire.
Je me permets de rejoindre ce que vient de dire Pierre. Effectivement, les jardins familiaux sont équipés de cette réflexion. Et effectivement, des personnes âgées collaborent étroitement aux réalisations. Et je fais une petite parenthèse pour remercier les services municipaux d'ailleurs, parce que qui dit âgé parfois dit malheureusement pas en capacité en fait de labourer les terrains au démarrage, et je remercie les services municipaux qui cette année ont prêté main forte et qui ont labouré pour justement des personnes qui n'étaient pas en capacité physique de le faire, qui ont labouré ces terrains pour que eux-mêmes puissent intervenir auprès des récoltes et voilà, et en profiter.
Bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des... Ah pardon, monsieur Beaubreuil.
Juste, ma voisine de droite, alors je ne parle pas de politique, hein, ma voisine de droite qui est très timide.
Ça va l'arranger parce que de ma place, elle est à gauche. Donc.
Me fait remarquer qu'il est regrettable quand même que la région et l'État ne participent pas.
Il n'y a pas de projet là-dessus.
Non, mais tout
parce
à
vous
fait.
Savez, vous savez
quoi. Mais ce qui est regrettable, effectivement, on ne peut que le constater.
Aujourd'hui, pour pouvoir avoir des subventionnements, il faut qu'il y ait une thématique d'ouverture au niveau national ou régional. Et là, pour l'instant, il n'y en a pas à ce niveau-là.
Il y en avait une, mais il fallait être en zone rurale. Et on n'est pas considéré comme des zones rurales, donc on n'a pas pu répondre à l'appel à projet. On a pourtant essayé de faire passer le projet qu'on avait avec la loi Egalim par le biais de ça, mais on n'a pas été éligible parce que pas revenu dans les zones géographiques.
Bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Mireille Chabot pour les demandes de subventionnement au département dans le cadre des CTD, les contrats territoriaux départementaux 2021.
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Vienne a fait connaître par courrier du 5 mars 2021 que la programmation des aides aux communes et des grosses réparations sur les voies communales pouvait être complétée par la prise en compte de nouvelles opérations. Celles-ci peuvent concerner des travaux d'assainissement, de réhabilitation ou de construction de bâtiments, de sécurité en matière de voirie, d'éclairage public, etc. Dans ce cadre, des subventions au titre des opérations suivantes pourraient être sollicitées. Pour le Palais des Sports, le Palais des Sports devrait bénéficier de deux opérations de remise aux normes de réhabilitation. Le parquet a besoin d'un nettoyage complet de la zone de terrain, d'un rabotage des lames qui dépassent et d'une application d'un vernis sur les 802 mètres carrés de la zone de jeu. Garantie anti-glisse. Les terrains de hand et de basket devront être retracés et les zones devant les buts colorées en bleu, pour un coût estimatif de 51 442,50 euros. L'opération se déroulerait entre juillet et août 2021. 20% de cette dépense pourrait être prise en charge par le département. À la demande de la commission de sécurité, le système de sécurité incendie doit être remis aux normes avec détecteurs et mise en place de diffuseurs lumineux. Le plan de financement prévisionnel est le suivant. Donc, il y aurait le département serait sollicité à hauteur de 10% pour 2 446,90 € et l'État, par le biais de la DETR, pour un montant de 11 011,05 €. Donc, ce qui ferait un total de financement public de 55%. La commune de Saint-Junien devrait, elle, financer à hauteur de 45% pour 11 011,05 €.
Oui, ce que vous avez sur ces épaules, c'est commune de Saint-Junien, hein, sur votre délibération. C'est un copier-coller qui était resté.
Pour la réfection de la couverture du bâtiment maternel à LSH, le bâtiment qui accueille les enfants de maternelle de la LSH et qui date de 1985 nécessite une isolation et une réfection de sa couverture. Au préalable, des travaux de désamiantage doivent être effectués. Retrait des plaques, rives, conduits de ventilation et évacuation d'eau et éléments de faîtage en fibrociment. Donc l'estimatif de l'opération, le désamiantage coûterait 14 828,30 € hors taxes. La couverture, 43 886 €. Donc, ce qui nous fait un total de dépenses de 58 714,30 €. Le plan de financement prévisionnel est le suivant. Le département, toujours sollicité à hauteur de 10% pour 5 871,43 €. L'État, par la DETR, 26 421,44 €. Et donc, la commune de Saint-Junien financerait la même somme, 26 421,44 €, soit 45%. L'opération pourrait s'effectuer entre septembre et octobre 2021. Pour les travaux de grosses réparations sur les voies communales, plusieurs opérations sont envisagées. Il s'agit de réaménagement des trottoirs et des stationnements avenue Gay-Lussac, tranche 4, portant sur des travaux de démolition du trottoir existant, découpage de chaussée, pose de bordure et caniveau béton, mise en œuvre de béton bitumineux noir et pose de mobilier urbain pour 52 000 €. Réfection des voies du cimetière municipal, tranche 2, portant sur la pose partielle de bordure, de mise à la cote d'ouvrage béton et la mise en œuvre d'une alternance de revêtements béton bitumineux mélange terre-pierre sur les voies visant à leur déminéralisation, pour un montant estimatif de 80 000 € hors taxes. Programme annuel de réfection de trottoirs, tranche 1, visant à intervenir simultanément sur des voies traversantes et des voies de quartier. Sur 2021, l'opération portera sur la réfection du revêtement des trottoirs, démolition du revêtement existant, reprise partielle de bordure, empierrement, béton bitumineux, noir, de l'avenue Sadi Carnot, de la rue Alfred de Musset à l'avenue Victor Roche, côté droit descendant, et à ceux de l'avenue Léontine Vignery, de la voie d'accès au parking de l'hôpital au centre culturel, côté gauche descendant, pour un montant estimatif de 40 000 euros. Création d'un cheminement en bord de la RD 941 entre le giratoire de l'Europe et celui du pavillon, portant sur le terrassement, l'empierrement, la mise en œuvre de tranchées drainantes sous nous, réalisation d'un revêtement soit en stabilisé, soit en béton bitumineux noir, et végétalisation des abords de part et d'autre du cheminement, les arbres existants étant conservés pour un montant estimatif de 40 000 euros.
Bien, je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Tarnot.
Alors, Monsieur le maire, mes chers collègues, le groupe Énergie citoyenne s'abstiendra sur cette délibération à défaut de pouvoir nous positionner de façon différenciée sur chaque dossier. Nous ne voulons pas nous opposer aux demandes de subventions, mais certains projets nous questionnent dans leurs modalités. Nous en avons déjà parlé et en reparlerons en commission. D'autres vont dans le bon sens, c'est pourquoi nous ne voterons pas contre cette délibération, mais nous abstiendrons.
Je vous remercie. Comme vous m'avez demandé si on tenait compte de vos remarques, je vous fais remarquer également qu'il y a eu de nouveau une nouvelle réflexion pour le cheminement en bord de la RD 941 entre le giratoire de l'Europe et celui du pavillon avec les arbres conservés, comme quoi on vous écoute aussi. Monsieur Gandois d'abord.
Juste pour savoir si certains de ces travaux, peut-être hormis la voirie, sont également éligibles au plan de relance gouvernemental.
La plupart, on aurait pu les présenter, simplement que c'est une décision qui s'est faite au niveau régional, que les fonds, lorsqu'on a présenté le dossier, ils n'étaient pas du tout sûrs. Donc la préfecture départementale, ce coup-ci, nous a proposé de ne pas se mettre sur la partie plan de relance pour ces dossiers-là, pour essayer de bonifier en fait notre DETR. Et au lieu de passer de 25%, on a proposé à 45% la DETR. Donc on aura un montant d'État subventionné plus important, mais par le biais de la DETR, plutôt que de cumuler avec une subvention qui n'était pas certaine. Voilà.
Merci. Madame Pic.
Oui, c'était pour avoir un petit peu plus de détails sur le cheminement au bord de la route 941, c'est quelle largeur qui va être prévue et quelle sécurisation entre
ça, je peux pas. Non, mais alors là, je peux pas vous répondre aux détails techniques. En commission, vous le verrez. Là, on est à la demande de subvention.
Okay.
Donc la commission verra le détail technique. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui. Dès lors que les arbres sont conservés, il faut vous dire déjà que si un cheminement, soit il est entre les deux rangées d'arbres, soit il est d'un côté ou de l'autre. Mais ça vous donne déjà une image ou une idée de la largeur qu'il peut y avoir. S'il est entre la route et les arbres, vous voyez à peu près la largeur. Et s'il est entre les rangées d'arbres, vous voyez aussi la largeur. Il ne peut pas être de l'autre côté, puisque les terrains sont à déprivés. Donc ça vous donne une idée. Après, je n'ai pas la largeur comme ça en tête, mais vous pouvez déjà commencer à la voir en passant à côté.
D'accord.
Eliane, Madame Crossi.
Oui, pour répondre à la demande de Clémence, une commission travaux est prévue deuxième quinzaine d'avril, donc tous ces détails vous seront présentés lors de cette commission.
Donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? 6, des votes contre, donc adoptés à la majorité. Notre collègue Thierry Granet concernant des projet de travaux dans le cadre du programme d'amélioration du cadre bâti, la DETR.
Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, les opérations ont pour objet des travaux de rénovation, d'aménagement de bâtiments ou la mise à niveau d'installations sportives. L'exécutif communal souhaite prioriser les opérations permettant une amélioration du cadre bâti et la réduction de la facture énergétique. La commune de Saint-Julien entreprendra la réalisation de ces travaux en 2021 et dépose des demandes d'aide financière auprès des services de l'État au titre de la DETR, de la DSIL et auprès du département au titre des CTD. Pardon. Les opérations se répartissent comme suit. L'accueil de loisirs sans hébergement, ALSH, est installé dans un ancien manoir qui a subi différents travaux d'isolation des parois et de remplacement des menuiseries extérieures. Pour compléter ces interventions, il est aujourd'hui nécessaire de procéder à la rénovation de l'aile accueillant les enfants de moins de 6 ans. Les travaux concerneront le désamiantage, l'isolation et la réfection de couverture pour un montant estimatif de 59 000 euros hors taxes. La production de chauffage du site sera également mise à niveau afin de garantir une baisse des consommations énergétiques. Un système de séparation des circuits de chauffage sera réalisé avec des régulations indépendantes pour un montant estimatif de 22 999 euros hors taxes. Cette demande s'appuie sur une dépense totale prévisionnelle de 81 999 euros hors taxes. La demande au titre de la DETR visera un montant de 36 899 et 55 centimes correspondant à 45% du coût total des travaux. La demande au titre des CTD visera un montant de 5 900 euros correspondant à 10% du montant des travaux de couverture et la demande au titre de la DSIL visera, elle, un montant de 5 749 euros et 75 centimes correspondant à 25% du montant des travaux de chauffage. L'hôtel de ville de la commune est installé dans un bâtiment du 19e. Remarquable d'ailleurs, je vous invite à le regarder de bas en haut. Il a été l'objet d'une opération de grosse réhabilitation dans les années 1990 et les combles du bâtiment ont été isolés récemment dans le cadre des opérations de certificat d'économie d'énergie. Ces actions ont permis l'amélioration du confort d'hiver des agents, mais des travaux complémentaires sont nécessaires pour l'amélioration du confort d'été. En effet, en période de canicule, qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes, il fait des chaleurs torrides lorsqu'on est au deuxième étage de la mairie et ça pose des difficultés pour le bien-être des gens qui y travaillent. L'intervention concernera la mise en place de systèmes passifs, réflecteurs sous toiture, remplacement de menuiserie extérieure et actifs, pompe à chaleur réversible. Cette demande s'appuie sur une dépense totale prévisionnelle de 100 000 euros hors taxes. La demande au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, visera un montant de 45 000 euros, correspondant à 45% du coût des travaux. Le stade municipal concentre des équipements sportifs de différentes natures, terrain de jeu pour le tennis, le football et le rugby, un gymnase, des pistes d'athlétisme, bref, tout un ensemble que beaucoup de villes nous envient. Cet ensemble nécessite un entretien régulier et des moyens conséquents afin de garantir le niveau de service propre à ces installations. À ce jour, les agents travaillant sur ce site ne bénéficient pas de locaux sociaux, comme des vestiaires par exemple, leur permettant d'exercer dans les meilleures conditions. L'opération prévue concerne le désamiantage d'anciens vestiaires, la mise en place d'une production d'eau chaude et le remplacement de menuiseries afin d'aménager des locaux sociaux. Cette demande s'appuie sur une dépense totale prévisionnelle de 33 228 euros hors taxes. La demande au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux DETR visera un montant de 14 952 euros correspondant à 45% du coût des travaux. Enfin, le Palais des Sports de Saint-Junien est un bâtiment sportif, 8e Palais des Sports de France à l'époque de sa construction, que la quasi-totalité des villes de France nous envie, qui accueille notamment les matchs de l'équipe locale de handball féminin, qui a gagné son dernier match, évoluant en 2e division nationale. L'installation de sécurité incendie, SSI, nécessite une importante mise à niveau afin de respecter les conditions minimales d'utilisation en toute sécurité pour les spectateurs. Cette demande s'appuie sur une dépense totale prévisionnelle de 24 469 euros hors taxes. La demande au titre de la DETR visera un montant de 11 011 euros et 5 centimes, correspondant à 45% du coût total du coût des travaux. Et la demande au titre des CTD visera un montant de 4 893 euros et 80 centimes, correspondant, elle, à 20% du montant des travaux. Je vous remercie.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous le soumets au vote, donc des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Eliane Crossi concernant le tableau des emplois au 1er mai 2021.
Donc, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre la modification d'un poste par rapport au budget. Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 4 février 2021 et considérant les propositions d'avancement de grade et dans la perspective des inscriptions au tableau d'avancement, donc monsieur le maire propose au conseil municipal de créer un certain nombre de postes au budget principal et d'en fermer d'autres et de modifier ainsi le tableau des emplois ainsi qu'il suit à compter du 1er mai 2021. Donc je vous laisse lire toutes les petites lignes.
Merci le rapporteur. Il s'agit des évolutions de grade qui sont prévues initialement. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Nous avons une dernière délibération qui concerne la fourniture et la livraison de repas à la commune de Chaillac. Donc, la commune de Chaillac, avant que tu le fasses, oui, si tu veux, parce que Joël n'est pas là.
Monsieur le maire de Chaillac-sur-Vienne a récemment sollicité la municipalité afin que le restaurant scolaire de Saint-Junien fournisse temporairement, pour cause de Covid, les repas de son école. Il vous est proposé de donner un avis favorable à cette demande et d'autoriser le maire à signer la convention fixant les modalités d'organisation de la fourniture des repas. Il est également proposé de fixer le prix unitaire des repas à 3,16 € hors taxe, ce tarif comprenant le coût de la livraison.
Je remercie le rapporteur. Alors, il est évident que c'est déjà fait, puisque en période de Covid, on se doit d'agir rapidement. Et lorsque il y a eu une problématique Covid à la mairie de Chaillac, on ne pouvait pas laisser, on ne pouvait pas réunir le conseil municipal et laisser les enfants sans repas. Donc, on a été obligé de prendre la décision et de passer ensuite la fixation du prix des repas. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité ? Je vous en remercie. Vous avez dans vos dossiers l'ensemble des décisions qui ont été prises depuis le 4 mars 2021, date du dernier conseil municipal. Et l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance. Je vous remercie. Bonne soirée.